Donc, on va commencer cette rencontre. Je vais introduire cette rencontre assez rapidement, comme je vous disais, parce que le temps nous a quand même un peu compté, en m'expliquant sur l'intitulé de cette rencontre, le livre audio comme objet littéraire. Disons que le but global de cette rencontre, c'est vraiment de dresser un état des lieux du livre audio en France, sachant que le livre audio en France existe depuis 10 ou 15 ans. Je vais d'abord vous présenter un des pionniers du livre audio en France, qui est Patrick Frémaux, créateur, fondateur, directeur de la librairie sonore Frémaux et Associés.
Bonjour.
Voilà, mais toi, tu te fais entendre. Et à ma gauche, Isabelle Panasopoulos, qui est enseignante, et enseignante en particulier avec des classes et des jeunes en difficulté. Donc, elle vous parlera un petit peu tout à l'heure de la nécessité, de l'importance, de la place de l'oralité dans ce genre de classe et d'une manière générale en milieu scolaire. Donc le livre audio existe en réalité de manière ponctuelle depuis très longtemps, en tant que marché depuis, je dirais grosso modo, 10 ou 15 ans, et forcé de constater que, alors que chez nos voisins anglais, anglo-saxons en général, les États-Unis et allemands, on arrive à des parts de marché, pour parler chiffres, de près de 7% du marché du livre, ce qui est considérable, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une pratique très 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 large du livre audio, alors que le public français peine à s'acclimater au livre audio. Or, on a quand même déjà aujourd'hui un bon matelas de référence, hein, quand même plus de 2000 titres de référence de livres enregistrés. Donc, on se pose vraiment, et on se la pose collectivement, on se la pose tous les acteurs du livre audio, pourquoi ? Quelle est la problématique, la spécificité française ? Enfin, qu'est-ce qui fait que le livre audio a du mal aujourd'hui à trouver son public ? Alors, bien sûr, nous n'avons pas de réponse, nous avons des hypothèses. Il y a des paramètres commerciaux, d'usage, de format, de abrégé par abrégé, des spécificités de chaque éditeur sonore. On en parlera, je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, enfin je pense que Patrick l'évoquera et que ça pourra peut-être faire partie des questions qui seront posées tout à l'heure à l'issue du débat. Mais pour avoir rendu visite de manière un peu systématique en novembre-décembre 2010 à près de 60 libraires un peu partout en France, j'avais envie de proposer une sorte d'hypothèse de travail aujourd'hui qui est l'intitulé de cette rencontre. Il me semble que le livre audio, il m'a semblé, à parler un petit peu avec tous ces acteurs du livre audio, que le livre audio souffre d'une dévalorisation par rapport au livre papier. Pour le public, pour les prescripteurs, le livre audio, ça reste une espèce de sous-produit du livre papier. C'est-à-dire que, en gros, à contenu littéraire égal, il y en a un qui semble avoir un contenu littéraire et l'autre qui semble avoir un peu moins de contenu littéraire. Moi, c'est là-dessus que je voudrais insister. Pour nous, le livre audio constitue au contraire une véritable plus-value par rapport à un texte littéraire. Je vais essayer de m'expliquer là-dessus. Ce qu'ont en commun un livre, je parle de littérature là, je mets de côté, je parle pour Patrick, tout ce qui est archives sonores, qui a un statut un peu particulier, je mets aussi de côté la lecture publique, c'est de l'oralité, mais elle a également un statut particulier, je parle vraiment de la littérature. Ce qu'a en commun un livre papier et un livre audio, c'est l'intimité. C'est l'intimité, c'est le rapport de personne à personne entre, d'une part, un texte écrivain et un texte un auteur, d'autre part, un auditeur et un lecteur. Ce rapport de personne à personne dans l'intimité, il est différent quand intervient une tierce voix, quand intervient la voix d'un liseur-acteur. Donc, quel est l'apport de ce liseur-acteur ? Je pense que dans le huis clos que nous entretenons, que j'entretiens quand je lis Flaubert, quand je lis Proust, quand je lis Duras, quand je lis André Breton, ce que je cherche, c'est moi-même. Ce que je cherche, ce sont mes propres affects que je vais chercher à retrouver dans le texte. Et ça, c'est un rapport, disons, ouvert en tant que mon imaginaire est ouvert, mais fermé, c'est un rapport deux à deux. Ce qui se passe quand vous avez une tierce voix qui intervient, à plus forte raison quand cette tierce voix n'est pas visible, c'est une mise à distance du texte. C'est une autre acoustique pour le texte. C'est une possibilité tout à coup pour un texte en soi, un texte d'auteur, d'exister sous toutes ses facettes possibles. Et c'est la raison d'être même de la littérature. Et moi, pour moi, il y a un malentendu là. Et ce malentendu, il est véhiculé par les prescripteurs potentiels de ce produit qui est le livre audio, tout simplement par méconnaissance. Et moi, ce que je souhaiterais aujourd'hui, c'est pouvoir porter une parole, enfin, je ne veux pas dire la bonne parole, je ne suis pas missionnaire, mais en tout cas, échanger sur ce propos-là qui me paraît fondamental. S'il fallait des preuves ou des à l'appui, je voudrais quand même rappeler que de tout temps, les écrivains, autrefois dans les salons littéraires, dans les cafés, dans les cercles littéraires, mais jusqu'à il n'y a pas si longtemps, aujourd'hui les médias et les moyens de diffusion sont différents, mais ont toujours, en même temps qu'ils écrivaient, ou avant qu'ils écrivaient, ou en même temps qu'ils publiaient, eut besoin de mettre en bouche leur texte, soit eux-mêmes, soit par d'autres, pour l'éprouver, c'est-à-dire pour l'entendre. Un texte tient sur la page quand il est mis en bouche. Ça veut dire simplement, dire ça, c'est simplement dire qu'un texte mis en bouche offre au texte vraiment tous les possibles du texte. Et je voudrais juste, pour l'anecdote, dire que les auteurs vivants, par définition, que nous mettons en livre audio, enfin dont nous enregistrons les textes en livre audio, combien de fois ils me disent « Ah, j'ai dit ça, moi, c'est ça que j'ai dit ». Donc eux-mêmes découvrent ce qui passe à travers leur propre écriture. Et je pense que c'est très, 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 très important, ce phénomène de distanciation et d'autres acoustiques qui est apporté par le livre audio. C'est vraiment dire que le livre audio n'est en aucun cas un substitut, un remplacement du livre CD destiné massivement, exclusivement à un public de malvoyants ou de personnes âgées. Non, c'est une autre manière de découvrir un texte littéraire. Et je pense que là, je ferai la transition. Alors, je ne sais pas s'il est 6 heures, mais c'est pas très grave. On va voir. Mais avec la lecture publique, ce que va nous offrir tout à l'heure Gérard de Sarthe, c'est encore autre chose. Ce que ça a de commun, c'est cette redécouverte, ce que ça présente de commun, d'apport commun, c'est cette redécouverte d'un texte, cette redécouverte d'un possible de ce que le texte porte en filigrane. Ce que ça a de différent, c'est que vous avez un acteur qui est là, qui est visible, qui s'interpose vraiment avec son jeu d'acteur, avec ses expressions de visage, avec ses jeux de mains, et je pense que c'est encore autre chose. Mais le livre audio a cette vertu particulière. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. On reparlera tout à l'heure des usages. Je passe la parole à Patrick Frémaux.
Alors moi, j'ai trouvé cette lecture très rafraîchissante, très amusante, pas seulement par le contenu des échanges entre un éditeur et son auteur, mais aussi pour toute cette époque, un petit peu surannée, un petit peu qui nous fait rentrer finalement dans une page d'histoire. Moi, j'aime beaucoup l'histoire de Gallimard. Il y a quelques années, il y a un collectionneur qui m'a remis un certain nombre de lettres originales de Paul Léoto, donc qui travaillait au Mercure de France. On a réédité en sonore les entretiens entre Paul Léoto et Robert Mallet en 10 CD. On a aussi beaucoup travaillé sur les archives Céline, où Chambrillon était allé enregistrer avec Céline, Arletty et Michel Simon des extraits de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit. Et cette maison, elle est formidable parce que cette maison, c'est une maison indépendante qui était tournée autour de l'édition et dont, si vous voulez, les problèmes financiers à court terme ou à moyen terme étaient moins importants que la destinée elle-même de la maison, qui était de toute façon d'être pérenne, de continuer. Et on ressent ça à travers toutes les archives qui peuvent être retrouvées et toutes les pages d'histoire qui ont été écrites par beaucoup des directeurs artistiques ou des gens qui travaillaient chez Gallimard, qui sont devenus aussi des auteurs. Alors, mon intervention, elle est sur le livre audio. Donc, pour moi, l'enregistrement audio, il est né en 1890-1895 avec l'enregistrement. On a réédité, par exemple, chez nous, les sketchs du comique troupier Ferdinand Gabin, 1888, père de Jean Gabin. On a réédité des enregistrements faits par Edmond Rostand lui-même, 1898-1899, Théâtre de la Porte Saint-Martin, où il avait créé sa grande pièce là,
Cyrano.
Vous voyez, quand je vous disais que j'avais des trous de mémoire, et donc à ce moment-là, on pouvait enregistrer que 2 minutes 30, donc il avait pu enregistrer que la tirade du nez. Il l'avait écrit et créé pour Coquelin Père, et là c'était pas Coquelin, c'était quelqu'un d'autre. Mais on a pu comme ça rééditer toutes ces tirades de Coquelin père jusqu'à Coquelin fils, jusqu'en 1939. Et ce disque est devenu d'ailleurs le manifeste de l'histoire du théâtre. C'est un disque qu'on vend très très bien à tous les élèves de théâtre. Donc il y a eu ces premiers enregistrements-là. Et puis ensuite, des enregistrements qui ont été faits par l'armée pour mémoriser des procédures militaires dans les années 10-15. Et puis les disques politiques qui ont enregistré Léon Blum et autres, la radio ne commençant qu'en 1933, le média de la radio. Et là, le média de la radio s'est substitué en faisant des productions parlées, mais qui n'étaient pas stockées. C'est quand même le disque qui a continué la mémoire, avec des productions après-guerre très connues, donc le Petit Prince de Saint-Exupéry par Gérard Philippe, qui était le livre Gallimard adapté, qui était exploité par Universal, et Les Lettres de Montmoulin par Fernandel, donc ces grands enregistrements-là. Puis arrive la télévision, et on ne croit plus au sonore. Marcel Pagnol lui-même, jusqu'en 72, aura enregistré énormément de choses en livre audio qui ne seront pas sorties parce que le sonore n'avait plus d'intérêt, mais lui pensait quand même que ça sortirait un jour, et c'est ressorti ces dernières années chez nous. Ne sont restés que des éditeurs, j'appellerais ça des éditeurs fonctionnels, à part La Voix des Femmes qui était assez... Les Éditions des Femmes qui étaient militantes et qui ont fait un très beau catalogue de voix dans les années 60-70, pour arriver en 1995 où notre maison, qui était avant tout une maison d'édition du patrimoine, s'est intéressée à rééditer les œuvres de Cocteau, les œuvres parlées de Cocteau, les discours du général de Gaulle, parce qu'ils n'étaient plus disponibles. Et en rééditant ces œuvres parlées, on a vu qu'il y avait un véritable intérêt pour le parler, que la radio d'ailleurs ne démentissait pas. Et on a choisi d'ouvrir un catalogue de disques parlés, mais qui soit attractif pour le public, c'est-à-dire avec des grands comédiens, avec un look attractif, avec une vraie direction d'acteur, de façon à ce que cet enregistrement parlé devienne une œuvre à part entière. Que ce ne soit pas de l'écrit qu'on retrouve en sonore, mais qui est véritablement une plus-value liée à l'interprétation. Interprétation qui nous touche toujours, parce que l'on écoute un disque parlé ou que l'on écoute la radio, on ne doute pas que la personne qui parle s'adresse à vous. Alors que lorsqu'on regarde la télévision ou au cinéma, on se sent bien étranger à la personne qui vous parle. On est dans un processus de voyeurisme partagé, mais pas dans un processus d'intimité partagée. Et donc, on a lancé cette collection qui s'appelle La Librairie Sonore, tout en continuant à sauver le patrimoine, tout en étendant ça à des cours, les cours de Luc Ferry, les cours de Michel Onfray, des entretiens entre les philosophes. Et on est passé de 50 librairies à 2500 librairies qui se sont mis à vendre ce type d'ouvrage. Et Gallimard nous a donc emboîté le pas il y a 5-6 ans.
7 ans.
Il y a 7 ans. En faisant les choses très bien, puisque c'est à chaque fois en prenant de très bons comédiens, en prenant des textes, en vérifiant bien la fusion entre les deux, en créant des œuvres sonores. Et puis ensuite est arrivé Audiolib Hachette, Flammarion, etc. Et donc il y a une généralisation mais il y a encore une peur du libraire, une peur du grand public sur l'intérêt de ce sonore, puisque même si le sonore, on peut remonter à la nuit des temps, la Bible, la grand-mère qui racontait des histoires, les salons de lecture, le cours magistral du professeur, hein, le sonore est très important, et bien finalement, Gutenberg, l'édition, etc., aura fait passer l'imprimé, qui est avant tout un moyen de stockage, comme un moyen de diffusion qui serait supérieur au moyen du sonore. Alors qu'en fait, on le sait bien, ne serait-ce que pour des raisons pédagogiques, le sonore, l'interprétation parlée, est tout aussi importante en termes de transmission que le témoignage écrit. Et il a même pour avantage d'être à une vitesse de métabolisation chez l'auditeur, une vitesse de lecture qui est finalement plus en phase avec nos moyens intellectuels. Quand vous lisez, par exemple, un livre de Jean Kélévitch, au bout du septième terme grec, au bout de la huitième petite ligne, eh ben, y a un lecteur sur deux qui est quand même fatigué, il faut bien le dire. Eh ben, écoutez un cours de Jean Kélévitch, tels qu'ils étaient radiodiffusés sur Radio Sorbonne et tels que nous les avons ressortis sur CD, n'importe qui a un niveau bac, même bac moins 1, bac moins 2, va être totalement en phase avec la pensée de Jean Kélévitch parce qu'il va respecter la vitesse de l'oralité. Toute chose compliquée va être expliquée deux fois, toute chose importante va être dite deux fois, comme d'ailleurs écrivait Perrault. Quand on écoute les contes de Perrault dans la vraie langue de Perrault, pas la langue qui a été disneyisée pour les CD pour enfants, mais les vraies rédactions telles qu'elles avaient été faites par Perrault, eh bien la langue respecte un rythme de l'oralité, et quand c'est lu par des grands comédiens, eh bien n'importe quel enfant, à partir de 6-7 ans, a cette langue riche qui devient pour lui totalement accessible. Donc il y a une tradition de l'oralité qui est évidente et qui pourtant, en France, crée une certaine méfiance, crée un certain doute, et dans lequel on a l'impression que ce serait un moyen de facilité. Bien sûr que c'est un moyen de facilité, mais la facilité à l'accessibilité du savoir et de l'émotion, ce n'est pas quelque chose de mal. Voilà. Donc, les éditions Frémaux sont reconnaissants à Gallimard et à Paul Duboucher d'organiser ces rencontres avec le public, qui sont à la fois des rencontres d'échanges critiques et puis un petit peu de lobbying, il faut bien le dire. Hein, vous n'êtes pas dans une réunion Tupperware, mais si on arrivait à vous convaincre, on serait quand même content. Voilà.
Merci. Merci Patrick. Et là, tu as fait de toi-même la transition avec Isabelle Panasopoulos, qui est donc enseignante et qui, elle, a aussi un point de vue sur l'oralité dans la transmission.
Bonjour, donc moi je vais commencer par vous raconter une anecdote qui a eu lieu l'année dernière. Je m'occupais d'enfants handicapés mentaux dans la classe, et puis j'avais décidé de leur faire écouter l'Odyssée. Donc je leur lisais d'abord moi, et puis un jour j'ai dit voilà, on va écouter le CD. Donc je glisse le CD dans l'ordinateur. Un garçon me dit tu es en train de glisser une mouche dans ma tête. Et puis au moment où la voix sort de la machine, panique totale, il commence à crier et puis il se cache sous la table. Et je me suis dit, il y a quelque chose autour de cet invisible qui nous questionne, nous. C'est-à-dire, d'où vient cette voix? À qui s'adresse-t-elle? Et qu'est-ce qu'elle me veut? Et d'où vient cette voix? Je crois qu'il y aurait quelque chose à faire et à réfléchir dans une classe autour de cette présence invisible. Et quelle raison un prof peut-il se donner pour faire une place à cette voix? Et je crois qu'il y a une difficulté pour un prof de passer la main ou de passer la voix, parce que c'est lui le maître du savoir dans la classe, et que donner une place à quelqu'un d'autre, en plus invisible, je pense qu'il a peur de perdre le contact avec les élèves, le rapport à l'autorité, ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a aussi en fait, très très peu de lecture à voix haute dans les classes, en tous les cas dans les grandes classes. Il y a quelque chose qui se perd dans la lecture au collège et au lycée. La lecture à voix haute, elle se fait soit par le professeur, soit on demande aux élèves de lire le texte de façon silencieuse, mais finalement il n'est pas lu à voix haute, très peu. Et puis, je pense aussi qu'on... Il y aurait une révolution à faire parce qu'on voit mal un professeur dire à ses élèves « Vous m'écouterez les liaisons dangereuses, le premier CD des liaisons dangereuses pour la semaine prochaine. » Et puis vous poserez la question, voilà, avec une dissertation à faire. Et je pense que les parents bondiraient en voyant leur fils ou leur fille avec les écouteurs en train d'écouter au lieu de lire. Et que l'enfant serait accusé d'être paresseux. Qu'il y a autour de cette notion d'écoute le même jugement de valeur qu'on pouvait porter autrefois dans les campagnes autour de la lecture. C'est-à-dire que quand on lit, on ne travaille pas, on ne fait rien. Et maintenant, dans l'écoute, il y aurait la même chose. Et en plus, le prof ne fait rien non plus. Parce que s'il donne la voix à sa voix, s'il fait écouter aux élèves, lui, il ne fait rien. Donc il n'y a pas d'espace inventé ou créé pour ça. Et puis, je trouve aussi qu'autour de la lecture, en tous les cas, il y a quelque chose autour du plaisir qui n'existe pas dans les classes. À quoi ça sert de lire ? On entend souvent que ça sert à maîtriser l'orthographe, à enrichir son vocabulaire. Pas souvent à penser ni à prendre du plaisir, et du plaisir pour rien, ce qui est, je trouve, aussi un des rapports avec l'écoute du livre. Et donc cette voix invisible, à qui s'adresse-t-elle ? Est-ce qu'elle peut s'adresser à un groupe, puisque tu disais tout à l'heure que c'est surtout un rapport intime ? Et je crois qu'il y aurait quelque chose à inventer aussi du côté, puisqu'on souffre beaucoup dans l'éducation nationale de cette différence de niveau, qu'on en est toujours à dire qu'il faudrait des classes homogènes et que c'est difficile de travailler avec des classes hétérogènes. Je pense qu'il y a aussi quelque chose à travailler autour, puisque maintenant tout le monde a un MP3, un téléphone avec lequel il peut écouter. Il y aurait des espaces à créer différents autour de la classe, et pourquoi pas donner à écouter un livre à un groupe d'élèves, même séparément, pendant que d'autres font d'autres types d'exercices. Et je crois que si cette voix invisible, qu'est-ce qu'elle me veut ? J'avais envie de vous adresser la question dans qu'est-ce que j'ai à perdre à l'écouter par rapport à la lecture, et qu'est-ce que j'ai à y gagner ? Je pense que ça fait partie des questions qui tournent autour de...
Oui, oui, oui. C'est vraiment intéressant. Je ne sais pas si tu as fini là, ce que tu voulais dire. Là, je voudrais juste poser une question, mais c'est vrai qu'on peut aussi maintenant entamer un espace de questions-réponses, hein, s'il y a des questions qui se posent dans la salle. Moi, je voudrais juste réagir à ce que tu dis par rapport à le rapport magistral en France. Effectivement entre maître et élève, qui est vraiment très fort. Et j'ai juste pensé en t'écoutant que effectivement en Allemagne, alors coïncidence ou pas, mais en Allemagne, parce que je sais comment ça se passe, et en Angleterre, où je sais aussi comment ça se passe, je ne sais pas aux États-Unis, ce rapport magistral n'existe pas. C'est-à-dire que cette espèce de rapport d'autorité entre le prof d'un côté, qui a le pouvoir, y compris le pouvoir de l'oralité, hein, qui a le droit de parler, et puis l'enfant, le jeune, doit être interrogé pour parler, c'est pas du tout comme ça que ça se passe en Allemagne et en Angleterre. Et d'ailleurs, en Angleterre et en Allemagne, on lit. Il y a beaucoup plus de lectures. Alors je me demande si c'est un rapport avec la fortune du livre audio dans ces pays. C'est juste une question que je me suis posée en t'écoutant tout à l'heure. Et l'autre chose qu'a dit Isabelle, avec laquelle je suis tout à fait d'accord, et qui relève du registre comme ça, psychologique aussi, ce rapport au rien faire aussi. C'est vrai que, est-ce que quand on écoute un livre audio, mais ça rejoint aussi ce que nous disons depuis tout à l'heure autour de cette table, est-ce que quand on écoute du livre audio, est-ce qu'il n'y a pas une petite voix intérieure qui nous dit, quand on lit, on lit, qu'est-ce qu'on fait ? On lit. Quand on écoute du livre audio, on est assis sur un fauteuil et on fait rien. Donc une espèce de chose un peu de perception un peu négative de cette activité qui n'en est évidemment pas une.
Voilà. Moi, je voudrais quand même dire un petit truc en complément. Le pari, parce que la problématique, elle est là. Le pari du disque parlé, il y avait deux paris possibles. Il y avait un premier pari qui était celui qui a été entretenu pendant des décennies. Là, je ne parle évidemment pas de Gérard Philippe lisant Le Petit Prince. Mais c'était d'ajouter une fonctionnalité à l'enregistrement pour pouvoir l'écouter, principalement pour les malvoyants. Et donc, le pari, c'était simplement d'offrir sensoriellement le texte d'une autre manière. Et puis, il y a un autre pari qui est beaucoup plus ambitieux, qui est un pari théâtral, qui est d'offrir une version sonore d'un texte, c'est-à-dire une version incarnée. De coller une voix, un travail d'acteur, sur un texte qui n'a pas forcément été écrit pour être lu. Évidemment, lorsqu'on écoute la pièce de Marius de Pagnol ou quand on écoute une anthologie sonore de la poésie sur CD, on écoute quelque chose qui a été fait, entre autres, pour le sonore. Mais dans la majorité des livres lus, on a fait des versions sonores de textes qui n'étaient pas prévus pour. Alors, des fois, ça ne se passe pas bien. Nous, on jette quand même beaucoup dans nos productions. Et puis, des fois, il y a des petits miracles. C'est une petite anecdote, mais mon dernier petit miracle, c'est Le malaise dans la culture, qui s'appelait avant Le malaise de la civilisation, de Freud, version française PUF, Presse universitaire de France, lu par Nathalie Roussel. Et Nathalie Roussel, comme a écrit un journaliste, elle prend son temps, elle monte ce petit chemin escarpé, mais elle ne bute sur aucune pierre. Et j'ai eu Prigent, le PDG des PUF, qui m'a appelé après l'avoir écouté, qui m'a dit « Écoutez, c'est incroyable, il y avait des passages que j'avais jamais vraiment compris. » Et de les entendre à la vitesse de Nathalie Roussel et lus par Nathalie Roussel, désormais j'ai compris ce qu'avait voulu dire Freud. Voilà. Et ça, c'est la magie de l'incarnation. Et c'est là où le sonore amène réellement une plus-value à l'écrit, que l'écrit ne pouvait pas, qu'on ne pouvait même pas penser que l'écrit aurait pu avoir un déficit dans sa transmission et que c'était le sonore qui allait lui amener cette possibilité d'accessibilité.
Ce qui est très intéressant, juste pour ajouter quelque chose à ce que tu dis, c'est que c'est très rarement l'auteur lui-même qui ajoute quelque chose lorsqu'il lit à haute voix son propre texte. Ça fait vendre, mais c'est rarement lui qui ajoute vraiment la plus-value dont parle Patrick. Hein.
Alors, ça dépend. L'étranger de Camus par Camus...
de rares exceptions près.
Voilà. Ou La gloire de mon père par Marcel Pagnol. Non, mais dans les deux cas, c'est des versions où les cinq premières minutes, ça ne correspond pas à notre imaginaire. Et puis après, les défauts de lecture sont en fait des plus en légitimité et des plus en comment le texte, finalement, pourrait être entendu. Mais c'est vrai qu'un comédien, un technicien de diction, sera un meilleur lecteur que son auteur. Maintenant, pour les choses qui sont improvisées, comme un cours d'un philosophe, là, c'est autre chose. Et évidemment, il y a plus de sens dans le cours improvisé que dans la lecture d'un texte fait par un comédien.
Mais en fait, je trouve que vous raisonnez toujours en termes de plus ou de moins, de ce que je disais à la fin. Qu'est-ce qu'on a à perdre, qu'est-ce qu'on a à gagner? Comme si ce n'était pas quelque chose d'autre, comme si on était toujours en train de comparer.
Mais oui, parce qu'on culpabilise et qu'on doit se justifier. Hein, c'est ça notre métier, non?
Comme si on ne pouvait pas juste écouter un livre, sans l'avoir lu.
Nous, on a énormément investi dans le sonore et dans la sauvegarde des documents sonores et dans la production de livres audio, parce que justement, lorsqu'on voit la progression du nombre de chaînes de télé, on est passé de 5 chaînes à 300 chaînes. Quand on voit le nombre de titres de presse, on est passé de 400 titres de presse, NMPP, LMP, dans les points presse à 3500, Internet, etc. Et pourtant, la radio, le service public, la pénétration, le temps de radio en écoute chez les gens n'a pas baissé. Ça veut dire que ce média qui est un média chaud, le fait d'écouter une voix qui vous parle, c'est quelque chose dont on a tous besoin, et c'est quelque chose qui est vivant, qui est intime, etc. D'où l'enregistrement et la sauvegarde du document parlé, qui, à notre avis, reste dans la transmission un mode essentiel de partage.